Alors, mon message d'aujourd'hui s'intitule « La chose la plus importante » et on va poursuivre dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens dans le Nouveau Testament. Et on va parler de la chose la plus importante. Vous savez, tous les chrétiens vivent des problèmes. Je pense que... Es-tu quelqu'un ici qui vit aucun problème? Oh, je vois une main, mais je sais que ce n'est pas vrai. On vit des problèmes, et parfois, c'est des gros problèmes. Et parfois, une épreuve peut être si grande que ça peut ébranler la foi, et on se demande si on peut même perdre la foi. Avec l'aide de Dieu, on ne la perdra pas. Mais c'est vraiment touchant quand quelqu'un vit une épreuve, une difficulté, un problème qui, à vue humaine, devrait le pousser à la complainte et même à perdre la foi. Mais qu'à la place, cette personne remercie Dieu parce qu'elle croit que ce qu'elle va lui arriver, ou ce qui lui arrive plutôt, va approcher d'autres personnes du salut. C'est surprenant quand quelqu'un se met à remercier Dieu dans de telles situations, et c'est encourageant pour les autres chrétiens d'entendre ça. Je me souviens du témoignage d'un ami qui me parlait d'une collègue de travail. Je ris parce que la personne est dans la salle ici. Parlait d'une collègue de travail qui priait depuis longtemps pour les membres de sa famille qui n'avaient pas la foi. Donc, un ami à moi avait une collègue de travail qui priait pour sa famille, qui n'était pas encore croyant. Un jour, elle reçoit la terrible nouvelle de son médecin d'un diagnostic de cancer. Et sa première réaction, c'était ceci: « J'ai hâte de voir comment Dieu va utiliser cela pour rapprocher ma famille de lui. » Et il se trouve que cette personne a reçu des traitements pour son cancer, a été guérie, c'est-à-dire elle est entrée en rémission. Et on a remercié Dieu pour ça, mais ce n'était pas sa première prière. Sa première prière, c'est « Dieu, utilise le malheur qui m'arrive pour réveiller les membres de ma famille par rapport à ton amour pour eux. » Quelle foi! Quel encouragement pour les autres! Dans nos épreuves. Alors, dans notre texte de Philippiens de ce matin, qu'on va lire dans quelques instants, on voit l'apôtre Paul qui est dans une grosse épreuve. En fait, il est en prison. Il vient d'être mis en prison à cause de ses activités d'évangélisation qui étaient mal vues et illégales. Et il va devoir subir un procès. Puis en plus, pendant qu'il est en prison, il y a d'autres prédicateurs de l'Évangile qui cherchent à profiter de son incarcération pour avancer leur propre ministère au détriment du sien, un peu comme en concurrence avec lui. Alors, peut-être que ça vous choque, mais c'est ça qui est arrivé. On va lire ça. Et ça fait souffrir Paul, mais son attitude est vraiment surprenante. Et on va voir ce qu'il va écrire à ses amis philippiens. On va le lire maintenant, mais d'abord, on va prier encore une fois. Et comme je dis, on prie que Dieu me guide dans ce que je vais dire, mais aussi que Dieu guide vos oreilles spirituelles. Oui, Seigneur, ouvre les oreilles de notre cœur. Et utilise ma bouche, utilise mes pensées en ce moment pour communiquer des choses qu'une personne ici a besoin, que des personnes ici auront besoin. Amen. Alors, lisons Philippiens. On continue, parce qu'on a déjà vu ce qui précède avant. À partir du verset 12 du chapitre 1, Paul écrit à ses amis, il dit, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, c'est le palais puis la prison dans laquelle il est à Éphèse plutôt. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour le Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament le Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là, c'est-à-dire que j'ai été emprisonné pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent le Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour des mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Que Dieu bénisse sa parole surprenante dans nos cœurs. Oui, amen. Alors, dans ce texte, Paul nous apprend à prier la prière que je vais mettre à l'écran maintenant lorsqu'on a un problème. C'est un peu le résumé de tout le message. C'est une prière. Seigneur, donne-moi la foi, comme Paul, donne-moi la foi que tu vas te servir de mon problème et que tu vas te servir de mon attitude dans mon problème pour rapprocher quelqu'un d'autre de toi. Est-ce que tout le monde comprend la prière? C'est bon? Seigneur, donne-moi la foi que tu vas te servir de mon problème, que tu vas te servir de mon attitude dans mon problème pour rapprocher quelqu'un d'autre de toi. Amen. Alors, ultimement, Paul a cette attitude surprenante, parce qu'il l'a apprise de quelqu'un d'autre. Il l'a apprise de Jésus lui-même. Voilà pourquoi Paul va écrire un petit peu plus loin dans la lettre aux Philippiens, quelque chose qu'on a vu il y a deux semaines, que chacun de vous, il parle maintenant aux Philippiens, qui forment une église, un peu comme nous à l'Oasis, il dit aux membres de l'église que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc, Paul prenait exemple sur Jésus-Christ et le mettait en pratique dans sa vie et l'enseignait aux autres. À la suite de Jésus, Jésus qui est allé jusqu'à la croix pour notre salut, pour notre bien à nous, bien, nous devons apprendre, nous aussi, à vivre dans la même attitude que Jésus avait, c'est-à-dire, waouh, je vais vivre des difficultés, mais si c'est pour le bien des autres, ça vaut la peine, ça vaut la peine. On va regarder trois choses dans ce que Paul écrit ici, puis son attitude. Trois choses. Premièrement, le contexte de Paul, le focus de Paul, le Dieu de Paul. OK? Pour approfondir un peu, pourquoi il nous amène à cette prière-là? Seigneur, le problème que je vis, si ça peut aider quelqu'un à se rapprocher de Christ, eh bien, utilise mon problème. Le contexte de Paul. Mais je voudrais parler du fait qu'il est en prison. On en parle beaucoup, mais ce Parce que c'est important. Les conditions d'emprisonnement sont difficiles. Les conditions d'emprisonnement dans l'Empire romain, c'était pas très humain. Les souffrances sont réelles et donc il va subir un procès. On ne sait pas quand. Donc, il ne sait pas combien de temps il va croupir dans la prison. Mais l'autre affaire, c'est que le procès, c'est qu'il va être accusé. Il va être accusé de toutes sortes de choses, des choses vraies, des choses fausses. Et il devra se défendre. Le sort de son ministère et de sa vie est mis dans la balance. OK? Donc, il va dire aux Philippiens, ça se peut que j'y laisse ma peau. Puis quand les Romains exécutaient quelqu'un, bien, il y avait de la torture aussi. Bon, c'est vraiment frappant que Paul parle même avec foi dans le fait qu'il va subir un procès et que peut-être il va se faire exécuter. Il y a plus encore, comme j'ai dit, parmi les prédicateurs qui continuent le travail à Éphèse, pendant que Paul, lui, est en prison, et il y en a qui le font souffrir dans ses émotions. Il se sent trahi parce qu'il y en a qui qui se mettent en concurrence avec lui. Et on peut imaginer qu'ils se disent, OK, si Paul passe un procès, puis qu'il passe au cash, puis que même il va se faire exécuter, bien, c'est à notre avantage parce que ça ouvre la voie pour notre prédication à nous. On va avoir plus de brebis. C'est horrible, mais en fait, on va en parler tantôt, là. Le message que Dieu nous donne comme chrétiens, c'est un message d'amour, un message de paix, un message même de don de soi, de sacrifice de soi. C'est un message pur. Mais nous qui le proclamons, des fois, on n'est pas encore pur. Et on peut avoir des mauvaises attitudes, même si le message qu'on prêche est pur. Et Paul est vraiment blessé par des gens qui croyaient étaient ses collègues de travail. Maintenant, l'autre affaire, c'est que Paul est au courant que les chrétiens de l'église de Philippe, qui est dans une autre ville, une église que lui a fondée avec son équipe, vivent des problèmes sur le plan de leur unité. Ils se font souffrir les uns les autres dans leur vie d'église. Et il y a toujours un risque qui se décourage. Notre appel, on l'a déjà vu, notre mission en tant qu'église, c'est de former une église et de refléter l'Évangile par notre unité. Puis des fois, on peut se décourager. On peut se dire, mais j'ai été vraiment déçu par l'attitude du pasteur la semaine passée. J'ai été déçu parce que je suis dans un comité de travail, puis on a pris une décision qui ne tenait pas compte de ce que je voulais, moi. Toutes sortes de choses peuvent arriver dans une église. Paul va exhorter les Philippiens et nous exhorte aussi. Il profite du fait que lui souffre pour les encourager dans leur souffrance. Il décide de leur donner l'exemple en leur disant, « Moi, j'ai décidé de regarder la réalité de mon problème avec les yeux de la foi. Je vous invite à faire pareil dans votre travail pour bâtir l'unité dans votre Église. » Je voudrais revenir sur cette question des prédicateurs. Lorsque j'étais à Paris la semaine dernière, j'ai découvert l'église, ils disent MLK, Martin Luther King, que j'aime beaucoup le nom parce que je suis très intéressé par ce personnage qui était un prédicateur lui aussi. Martin Luther King, et c'est une église impressionnante. L'année dernière, ils ont baptisé 500 personnes, surtout des jeunes. Et c'est quelque chose quand même. Ils ont même un pasteur pour les baptêmes. Hey. Et puis, je pense qu'il est payé pour ça. Mais il y en a 500. Je veux dire, il a plus de nouveaux à baptiser que le pasteur ici, tout le monde mis ensemble. Alors, ils ont vraiment du succès et ils ont le vent dans les voiles. Et j'ai senti que c'est parfois difficile pour les autres églises à Paris qui travaillent fort depuis longtemps, des églises plus petites, des églises qui ont des résultats, mais moins gros, de ne pas être envieuses. Peut-être d'avoir des ressentiments, d'être critique. Puis j'ai vu aussi que l'église qui a le vent dans les voiles, l'église Amelka, c'est pas nécessairement facile pour elle de tenir compte de l'intérêt des églises plus petites et plus vieilles. Nous sommes tous humains. Et c'est, en tout cas, ce que Paul a décidé de faire. Il dit, voilà, j'ai des gens qui sont jaloux de moi, qui sont contents que je suis en prison, mais en autant qu'ils prêchent le vrai évangile, qu'ils annoncent le véritable Jésus, pas une fausse doctrine, bien, je vais me réjouir et je vais même prier pour eux. Que, Seigneur, utilise-les. Ce n'est pas la fin du monde. C'est vrai que moi, je souffre, mais ce n'est pas le plus important. Puis ça nous amène à mon deuxième point, le bon focus. Paul réussit à garder le bon focus, la bonne priorité. Il a compris que la chose la plus importante, ce n'est pas lui. Ce n'est pas son problème non plus. Mais c'est Dieu. C'est le plan de Dieu. Et puis, c'est que son évangile continue d'avancer. Amen. OK? L'important, le plus important, c'est vrai que je suis important, mais le plus important, ce n'est pas moi, dit Paul. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas que je sorte de mon problème. Mais c'est Dieu, son plan, et que son évangile continue d'avancer. Puis dans ta vie aussi, tu es en train d'apprendre que le plus important, c'est pas toi, c'est pas ton problème, que ce soit une maladie, que ce soit un problème financier, un problème d'immigration. Puis je comprends que c'est des gros problèmes qui te font souffrir, une relation difficile, un échec dans ta vie de famille, une difficulté relationnelle dans ton travail ou dans ton église. Non. Dans ta vie aussi, la chose la plus importante, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu puis son évangile qui peut avancer à travers toi. Je me souviens d'une situation qui avait été mise en scène. J'avais pris un cours sur comment témoigner de ma foi en Jésus. Et dans ce cours, il y avait une scénette, une petite pièce de théâtre dont je me suis toujours souvenu. Donc, c'était une étudiante qui était chrétienne, qui allait à l'université. Et elle se liait d'amitié avec une amie en classe qui n'était pas encore croyante. Et elle lui demande, mais comment ça s'est passé ta semaine de lecture, ta semaine de congé? Et la fille, son amie, lui répond qu'elle était très triste parce que ses parents venaient de se séparer durant cette semaine de congé. C'était une semaine de tristesse. La fille chrétienne commence à lui partager que dans son groupe maison à l'église, il y a une sœur que malheureusement, son mari et elle viennent de se séparer. Son mari venait de la quitter, elle aussi, et que c'était un drame et que cette sœur chrétienne souffre beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre. cette sœur souffre beaucoup et comment le groupe Maison a entouré cette sœur qui venait de vivre ce drame et qui devait passer à travers cette souffrance. Et ça a touché la personne non-croyante, que les chrétiens, devant un drame comme ça, pouvaient s'unir, pouvaient s'entraider, pouvaient aider la personne dans la vulnérabilité, dans la souffrance. Et dans le sketch, elle accepte une invitation pour venir dans le groupe. Alors, vous me direz, oui, mais ça, c'est inventé. Oui, mais c'est le même principe qui est enseigné ici, que même si moi, je vivrais un drame dans mon couple, à Dieu ne plaise, je ne le vois pas à l'horizon, ma épouse est ici, c'est juste un exemple, mais même si je vivais une difficulté, on va tous vivre des difficultés, mais même si c'était un drame dans mon couple, oui, je demanderai à Dieu de m'aider à régler mon problème, mais la chose la plus importante, c'est pas mon bonheur à moi, c'est pas mon problème non plus, c'est que Dieu, son plan, son évangile avance. Parce qu'ultimement, quand on est réconcilié avec Dieu, eh bien, on a le vrai bonheur à l'intérieur de nous pour l'éternité et on peut le transmettre à d'autres. Alors, c'est pour ça que Paul dit, ne vous découragez pas que je suis en prison. C'est en train de servir à l'avancement de l'Évangile et pour que d'autres découvrent l'amour de Dieu. Et le troisième point que je voulais mentionner, c'est comment Paul voit Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui produit le bien même à partir du mal. Il l'a fait, on l'a vu récemment, dans la vie du patriarche Joseph. Pas le Joseph qui est le père de Jésus, mais l'autre Joseph. Le Joseph qui est le fils de Jacob. On se souvient que les frères de Joseph avaient été ses ennemis. Ils ont cherché à détruire sa vie. Vous vous souvenez de cette histoire? Ils ont pensé à l'assassiner, mais à la place, ils l'ont juste vendu comme esclave. Et pour détruire sa vie, pour l'éliminer de leur vie. Mais Dieu a complètement transformé leur plan pour en sortir du bien, non pas parce que le bonheur de Joseph était le plus important, bien que Joseph a fini par être heureux, mais Dieu voulait sauver toute la famille à travers Joseph, d'une famine. Et Dieu voulait fonder un peuple, le peuple d'Israël, de qui allait venir Jésus, le sauveur du monde et le sauveur de nous tous. Alors, Dieu avait un grand plan qui fait qu'il a utilisé le malheur de Joseph pour le bien de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est pour ça que Joseph, lui, il y a cette parole célèbre, au moment où ses frères qui ont vu le revirement et qui ont peur, ils ont eu peur, les frères de Joseph ont eu peur que maintenant qu'il était en position de force, qu'il allait se venger, il leur dit ceci, « Mes frères, n'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » Et c'est ainsi qu'il réconforta leur cœur. Alors, ça aussi, c'est frappant. Quelqu'un à qui j'ai fait du mal et qui me dit, « Inquiète-toi pas, Dieu l'a transformé en bien pour tout le monde et là, je vais m'occuper de vous. » Amen. Amen. Et Paul connaissait cette histoire et c'est pour ça que Paul va écrire dans une autre lettre, la lettre aux Romains, il dit, « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » J'entends des gens marmonner, ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui le connaissent par cœur, ce verset, Romains 8, 28, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alors, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens ici ce matin qui souffrent. Il y a des gens qui sont arrivés ici au Québec dans des circonstances difficiles, qui se débattent pour avoir les choses de base ici à Montréal. Rappelle-toi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La souffrance que tu es en train de vivre, aie confiance que Dieu est en train d'utiliser et ton attitude de foi pour parler à quelqu'un. Tu n'es peut-être pas au courant qui c'est, de qui il s'agit. Paul, qui avait passé par la prison et bien d'autres choses, il dit, « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ça c'est les anges méchants, ni les présents, ni l'avenir, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Okay. Le temps avance. J'avais une section sur le fait que Paul aussi, il a beaucoup de confiance que les autres prédicateurs vont faire du bien parce que Dieu a donné au message de l'Évangile une force de contagion irrésistible dans le monde. Il faudra qu'on parle de ça une autre fois, car le temps est court. Mais j'aimerais terminer juste en rappelant cette prière qui résume un peu ce que je dis ce matin et qui nous vient de l'attitude de Paul. Seigneur, donne-moi la foi que tu vas te servir de mon problème et que tu vas te servir de mon attitude dans mon problème pour rapprocher quelqu'un d'autre de toi. Amen. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait remettre son problème à Dieu ce matin? Es-tu quelqu'un qui dit, « OK, il y a un problème que là, je vois qu'il faut que j'aille la foi, que c'est là pour une raison qui pourrait aider quelqu'un d'autre. » Si oui, je te demanderai de prier avec moi ce matin. Et tu peux même te lever. Tu peux même te lever maintenant si tu veux. Ce serait une bonne chose. Tu te lèves pour dire, « Seigneur, j'ai compris. Je veux te remettre mon problème maintenant. » Et lève-toi, oui, et prie avec moi maintenant. On va prier. Ça, c'est peut-être un petit problème qui te dérange, c'est peut-être ton gros problème. Je t'invite à te lever. Prions. Seigneur, tu vois, que plusieurs se lèvent en te disant, « Voici, je mets devant toi une situation que moi, je voudrais en être libéré. Je voudrais la solution tout de suite. » Et Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de l'amour, le Dieu de la solution, le Dieu qui veut notre bien. Et on te remercie pour ça. Mais ce matin, on te demande autre chose. Oui, donne-nous la foi. Un peu comme Paul avait dans sa prison. Puis un peu comme Jésus a eu quand il a dit à ses disciples, « OK, là, on s'en va à Jérusalem, puis mon plan, c'est que je vais me faire arrêter, puis je vais passer un procès, puis je vais mourir. » Et les disciples ont dit, « Mais t'es fou. » Mais Jésus a dit, « Non, c'est pour le salut du monde. je vais le faire. Alors, nous voulons regarder à toi, Jésus, ce matin, et dire, mon problème, je veux le vivre avec les yeux de la foi. Et je veux marcher main dans la main avec toi à travers cette chose difficile. Et je veux apprendre de toi. Je veux être aussi ton témoin envers une personne ou des personnes qui me regardent. Peut-être des chrétiens qui ont besoin d'être encouragés. Peut-être des personnes non-croyantes et qui ont besoin de voir que j'aime quelqu'un qui est plus grand que ma propre vie. Et c'est toi. Je te remets ma vie, Jésus. Merci pour le privilège de marcher avec toi. Amen.